que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Bienvenue dans cette deuxième tranche de l'émission Okapi Service, l'émission, le magazine de la vie au quotidien. Eh bien, après avoir parlé de la patridie dans la première partie, maintenant nous allons aborder un autre sujet. On va parler de la consommation des drogues et liqueurs fortes par les jeunes. Eh bien, les jeunes débordent d'imagination dans la consommation des substances pour se détruire. Après les fameux whisky Zododo, on a eu la chicha, le bangui, 33 oiseaux. Tati, c'est 33 ou 36 oiseaux? On parlait de 36, 33 oiseaux, quelque chose comme ça. L'herbe du diable, etc. Kérosène et autres. Maintenant, on parle d'une certaine drogue artisanale appelée Bombay. Eh bien, elle est extraite des résidus, des tuyaux d'échappement, il y a des mélanges qui se font là-bas avec d'autres substances. Une drogue bon marché et très puissante qui les fait presque dormir debout. Il fonctionne au mode ralenti. Eh bien, alors, quels sont les dangers de la consommation des liqueurs et des drogues sur la santé des jeunes et qu'est-ce qu'il faut faire pour endiguer ce phénomène? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec nos invités. Nous avons déjà dans ce studio, c'est le professeur Joachim Mukawebuel. Vous êtes psychopathologue. Bonjour, professeur.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission.
Merci beaucoup.
Et tout à l'heure, nous recevrons également docteur Abraham Mifundu. Okay. Il est neuropsychiatre,
oui,
et expert dans la lutte contre les drogues, oui, et les crimes en République démocratique du Congo. Alors, professeur, vous avez suivi, les jeunes ne cessent de déborder d'imagination, Zododo, chicha, etc. Aujourd'hui, on parle des Bombay, une drogue très très puissante qui est extraite des résidus des tuyaux d'échappement. Et d'abord, qu'est-ce qui pousse les jeunes, la jeunesse, à se détruire de cette façon?
Oui, merci beaucoup d'abord pour l'invitation et afin qu'on vienne discuter un peu des problèmes des jeunes. Mais qu'est-ce qui fait que le jeune puisse se droguer de la sorte? Eh bien, toujours comme lorsque nous parlons de substances psychoactives, des drogues, il y a plusieurs raisons qui font que le jeune puisse aller se droguer. Et l'une de raisons, c'est la curiosité. Vous voyez, les jeunes sont tellement curieux, ils veulent tout essayer, ils veulent tout voir. Eh ben, c'est comme ça que on constate que beaucoup de jeunes vont se droguer. Il y a également l'oisivité. Ils font rien. Le fait qu'ils ne font rien, ils aimeraient vraiment se mettre dans leurs états pour...
Ça les occupe
un peu en quelque sorte. Mmh. Mais moi, je sais également qu'il y a aussi le fait de la globalisation, de la mondialisation, parce que ils observent, ils voient quand même à la télé et dans certains réseaux sociaux et certains comportements, et certains jeunes cherchent à imiter, ils cherchent à voir comment je peux aussi me retrouver dans tel état, parce que comme nous voyons les problèmes avec tout ce qui vient, lorsqu'on lit d'où vient cette problématique, on voit bien ça vient du Nigeria, ça vient du Kenya, mais comment ils ont su? C'est-à-dire qu'ils ont été en contact d'une manière ou d'une autre.
Mmh. Ils ont vu ça quelque part.
Bon, alors ils aimeraient aussi essayer afin de se mettre, n'est-ce pas, dans un état quelconque.
Mais on parlait des liqueurs, il y a des drogues, ouais, à tout moment. Finalement, c'est la jeunesse qui s'est détruite.
C'est la jeunesse qui s'est détruite, c'est la société entière qui s'est détruite. Et moi, je pense que vraiment, le président de la République a parlé un mot juste, parce que c'est le moment où il faudra bien essayer d'éradiquer ce fléau. Ça va pas. ça va pas. Il suffit de voir le jeune comment il se bat. Hier, je revenais de l'université, j'arrive quelque part, n'est-ce pas, et je reviens de l'UPN, je vois les jeunes qui se battent en pleine rue, inconscients. Ils se battent en pleine rue, inconscients, ils étaient nombreux, ils tombent sur le pavé, mais ils sentent pas qu'ils ont des douleurs.
Voyez un peu. Ils ont déjà pris quelques whisky ou
quoi? Ça, d'après ce qu'on a vu, ben, comment voulez-vous que les jeunes se battent sur le macadam? Ils tombent, ils sentent rien. Ils sentent rien, ils sont là. Et les militaires sont venus les séparer. Ben, j'ai dit, mais ça, c'est grave. Ce sont des choses qu'on voyait pas il y a très, très longtemps, qu'on voyait pas dans ce pays. Mais en tout cas, la société est en train de se déchirer, de se détruire.
Est-ce que on peut dire que c'est, tout ça, c'est l'oisivité, le manque à faire, ils vont pas à l'école, ils font rien. Beaucoup de jeunes se retrouvent dans ces situations, on les appelle les Kuluna, tout ça, et les autres.
Ben oui, ben, lorsque nous observons de près cette situation, il y a ça, le fait qu'ils ne font rien.
Il y a également, pas d'encadrement.
Il y a aussi le fait de manque d'encadrement, exactement. Moi, je pense qu'il faudra bien qu'on arrive à canaliser, à encadrer tous ces jeunes. Moi, je cite tous ceux qui sont en train de recharger de voitures, tous ceux qui sont en train, n'est-ce pas, de rouler sur moto. Il y a tous ceux-là qui sont, on appelle les enfants Kuluna, les enfants des rues.
Oui.
Donc tout cela, ça se recrute dans cette population. Et je pense que il est temps vraiment qu'on puisse voir comment examiner cette situation. Tous ces jeunes là doivent être examinés. Il y a ce qu'on appelle l'alcoolémie. Donc dans beaucoup de pays, on voit bien comment on peut contrôler tous ceux qui sont en train de faire le transport. Ils doivent être contrôlés. Les taximens doivent être contrôlés.
Beaucoup prennent le whisky chaque matin, mais avant de prendre le volant.
Mais ils doivent être contrôlés. Moi, je pense que il est temps que le pays pense à un système d'alcoolémie. Il faudrait bien qu'on puisse contrôler, que les policiers puissent avoir du matériel pour contrôler tout le monde, tous ceux qui font le transport doivent être contrôlés. Même aussi aller vers les institutions qui s'occupent des enfants des rues et toutes les institutions qui sont en train de s'occuper de Kuluna, il faudra bien qu'ils soient équipés afin qu'on arrive. Je pense qu'on va arriver à ce qu'il faut faire, mais il faudrait bien qu'on arrive à cela.
Professeur, quels sont les effets de ces substances sur la santé mentale, sur le corps en général de ces consommateurs jeunes?
Oui, drogue bombée se trouve être parmi dans la catégorie de ce que nous appelons en termes techniques les substances psychoactives. Les substances psychoactives. Psychoactives, pourquoi? Parce que ce sont des substances qui, une fois qu'on les prenne, ça altère. La première chose, ça altère le niveau des consciences. Deuxièmement, ça altère l'humeur, mais également ça altère la pensée. Donc ça altère, n'est-ce pas, le niveau des consciences. Le jeune qui prend ça, déjà, sa conscience est perturbée. Son niveau de conscience est perturbé. Deuxièmement, son humeur est perturbée. Vous verrez ce jeune qui passe deux états au même moment. Tantôt un état dépressif, il est un peu calme, mais il peut aussi passer dans un état de passage à l'acte, n'est-ce pas, avec agitation. C'est comme ça qu'il y a également la violence. Mais on voit aussi que ça peut aussi aller altérer la pensée. Il ne saura plus penser normalement. Il ne saura plus, n'est-ce pas,
réfléchir
normalement. Donc ces trois domaines, le domaine de conscience, le domaine de l'humeur avec cette double manifestation, et puis le domaine de la pensée, sont à altérer ces trois domaines. Ce qui fait que vous allez voir qu'un jeune qui a consommé cela, soit il passe à la violence, ou bien vous verrez que le jeune est calme, il ne parle pas, mais il y a d'autres, n'est-ce pas, qui ne peuvent pas réfléchir, qui posent des actes antisociaux parce qu'ils ne savent pas réfléchir. Voilà. Donc ce sont des conséquences.
Quel genre d'actes? Aller voler?
Ils peuvent voler, ils peuvent taper, ils peuvent violer, ils peuvent même se déshabiller parce qu'il est déshumanisé. Voyez, il est déshumanisé à un certain moment, il se retrouve plus, il se reconnaît plus. Avant qu'il puisse prendre cette drogue, peut-être qu'il pouvait bien contrôler ses cheveux, peut-être qu'il pouvait bien fermer sa chemise, mais une fois qu'il est dans cet état-là, il ne peut plus se contrôler. Voilà. Donc, il est déshumanisé. Et il y en a qui vont, c'est comme ça qu'il peut prendre une machette, il peut taper sur quelqu'un parce que il n'a plus conscience. Il n'a plus conscience que l'être humain existe comme moi. Voilà. Il peut même, chez lui, même à la maison, même taper sa mère, taper son père. Voilà. Donc, en cours de route, il parle sans contrôle. Vous voyez bien, vous le verrez en train de raconter des histoires. C'est un état. Il est dans un état de perte de conscience, de perturbation d'état de conscience. Son humeur est perturbée et même ses pensées ne sont plus fixes. Voilà.
Bien, on va accueillir le docteur Abraham Ifundu. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes neuropsychiatre et expert dans la lutte contre les drogues et les crimes en RDC. Aujourd'hui, les jeunes débordent d'imagination, ils consomment des substances de plus en plus dangereuses. Aujourd'hui, on parle du fameux Bombay qui les fait presque dormir debout. Professeur, quel impact cela a sur dans la vie de ces jeunes-là?
En fait, l'impact peut être direct sur eux-mêmes, et de telle manière que ça peut leur provoquer des problèmes de santé même physique. Vous trouverez que ils peuvent altérer, par exemple, leur foie qui peut avoir des problèmes. Et ils peuvent même avoir des problèmes de santé mentale jusqu'à les amener à être hospitalisés pour des troubles parfois assez graves. Par exemple, le chanvre, il est réputé provoquer des problèmes psychotiques qui sont les plus graves troubles psychiatriques connus. Mais il y a aussi des problèmes sociaux, par exemple l'ordre public. Maintenant, avec cette nouvelle substance, le Bombay, on peut les retrouver dans la rue et être victime de bouchons de circulation routière. Et même peuvent être victimes d'accidents de circulation. Mais au-delà de cela, c'est aussi un problème socioculturel. Ça bouleverse quand même notre manière de vivre qui n'est plus comme avant. Et partant même, il faudrait que, pour que nous puissions y apporter des solutions à ce qui donne, il faudrait qu'on comprenne comment évolue finalement ce problème de consommation de substances psychoactives en RDC. En fait, les substances sont là, elles sont là avec nous, elles ont existé depuis le vieux temps.
Hein? Professeur, à un certain moment, la ville de Kinshasa, le gouverneur avait même interdit l'importation des whisky, la vente et la consommation des whisky en sachet à l'époque, mais malgré cela, les réseaux des fournisseurs continuent à fonctionner sans problème.
Alors, si vous me permettez, comme ça, je vais vous expliquer, en tant que chercheur, comment nous comprenons tous ces phénomènes-là. Donc, nous savons que les substances sont là depuis le vieux temps. Et au Congo, il y avait des substances qui étaient consommées naturellement, et l'alcool, et il est venu le tabac, et il est venu le cannabis à une certaine époque. Et à une certaine époque, c'est le cannabis qui a pris le devant, et ou avec la consommation de l'alcool ou du tabac. Mais en tout cas, le cannabis était le champ, était la substance vraiment la principale. Et au cours du temps, les jeunes gens ont commencé à consommer des drogues dures qui venaient de l'extérieur, notamment l'héroïne et la cocaïne. Et leur substance principale qu'ils consommaient, c'était plus l'héroïne. Et nous avons fait des recherches, et nous avons même fait des rapports là-dessus quand le problème était très aigu. Et ils consommaient en ce temps-là la cocaïne. Ils associaient à la cocaïne parce que ils connaissaient que quand ils consommaient l'héroïne, ils avaient des effets qui les dérangeaient. Et en l'associant avec la cocaïne, ils étaient très bien. Et avec le temps, les chanvres, comme la cocaïne coûtait cher et l'héroïne coûtait cher, eh bien, ils se sont encore abattus au cannabis, mais cette fois-là, ils l'ont associé à des substances psychoactives locales. Et on a fait des recherches. Notamment, ils achetaient le cannabis, le chanvre, avec le feuille de tabac, parce que ça brûle plus rapidement et ça donne plus d'effet. Et avec le temps, on a remarqué que sur le marché, il est arrivé la production de liqueurs fortes de manière industrielle. Eh bien, ils se sont penchés maintenant dans la consommation de liqueurs et de vins forts, Et là, l'État congolais n'a fait que réprimer la production de ces liqueurs.
Oui.
Et il a commencé maintenant à s'installer la grande délinquance, la criminalité urbaine. Et puis, comme ça coûtait un peu plus cher et qu'ils ne savaient plus accéder à cela, compte tenu de la situation socio-économique, eh bien, on est passé, ça a changé, la consommation a changé, on est passé dans les liqueurs de fabrication traditionnelle, la Guinée que vous connaissez.
La Guinée, on a parlé des ododo.
Oui, qui est un passé assez récent. Et ce qui est grave est que ça s'associe toujours, ça continue à s'associer avec la criminalité urbaine. Alors, maintenant, assez récemment, comme l'État congolais était en train de réprimer la fabrication des liqueurs traditionnelles, eh bien, ils ont trouvé une solution. Parce qu'en fait, la consommation de Bombay, c'est une situation qui existait depuis très très longtemps. Les gens qui vont délivrer, d'ailleurs, qui vont prendre leur véhicule dans des ports, ils savent que la grande recommandation qu'ils avaient, c'est de vérifier bien leur tuyau d'échappement, s'il était bon, s'il était encore en place.
Il semble que maintenant, quand vous laissez le véhicule au garage, il faut faire attention. Ou chez les mécaniciens.
En fait, c'est quelque chose qui a existé il y a longtemps. Mais maintenant, ce qui est plus grave, et que peut-être le commun des mortels ne connaît pas, et ça, l'État congolais devra faire grande attention, c'est que maintenant, nous avons des alchimistes. Donc des chimistes qui commencent à fabriquer des substances psychoactives plus puissantes et qui leur donnent plus d'argent et qui détruisent assez profondément. C'est ça. Donc le Bombay, c'est en fait cette poudre-là, mais ce n'est pas seulement la poudre qui est consommée. Parce qu'on y ajoute, par exemple, parce que j'en reçois dans mes consultations, il y a certains qui
font des mélanges.
Voilà, qui font le mélange. Ils prennent, par exemple, le Bon Appétit pour bien manger. Il y a d'autres qui mélangent avec le Doliprane pour avoir moins de douleur. Mais ce qui est assez grave, c'est que ces alchimistes entrent maintenant dans la pharmacie normale. Ils vont y acheter des médicaments qu'ils ajoutent à leur poussière de Bombay, notamment la kétamine, parce que j'en ai reçu deux patients qui sont venus comme ça, qui connaissent ça. Donc on y ajoute maintenant des anesthésiques, hein, qui sont vendus dans les pharmacies, qu'ils achètent et qu'ils mettent dans leur produit pour que le produit devienne encore assez puissant. Mais même dans un passé assez récent là, et vous avez vu qu'à la télévision, eh bien, on faisait l'éloge de la puissance sexuelle, de la virilité, de la beauté de la femme. Oui. Et pendant cette période-là, il est passé une addiction dont on n'a pas fait grande, à laquelle on n'a pas apporté grande attention.
Professeur, il semble que même la bière qui est vendue généralement, là, c'est aussi une drogue socialement acceptée.
Disons, c'est une substance psychoactive qui va, comme le professeur Lucas l'a dit, qui va modifier le fonctionnement du cerveau. C'est la chose sur laquelle je voulais insister, c'est que pendant une période donnée là, il y a eu grande consommation de cannabis et à la télévision, comme il y a eu une grande publicité de la force sexuelle, de la beauté de la femme, eh bien, il y a eu une toxicomanie qui s'est développée, mais dont on n'a pas fait grande attention, c'est que les jeunes ont commencé à prendre de l'anafranie. Donc, ils sont encore entrés dans la pharmacie pour associer leur chanvre à l'anafranie, qui est un médicament que nous utilisons pour traiter la dépression. Et ils l'achetaient et l'associaient à cette substance. Alors que les femmes, pour être plus belles, pour être plus grosses, eh bien, elles consommaient maintenant les anabolisants et le Bon Appétit.
Le Bon Appétit, pour avoir des formes beaucoup plus larges.
Voilà, des formes un peu plus larges. Donc, il faudrait que dans les interventions, qu'on puisse bien comprendre le phénomène pour qu'on puisse y apporter des solutions.
Docteur Mifundo, un instant, on va accueillir les auditeurs. J'ai quelques auditeurs en ligne déjà. Il y a Serge Benjamin Bahati de Bounia et Serge Kalobia de Kindu. Benjamin, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Je n'ai pas tellement de questions, mais je salue le journaliste éviter les auditeurs de la radio Capien.
Bien, merci pour la salutation. Alors, on va donner la parole à Serge Kalobia de Kindu. Bonjour.
Bonjour aux journalistes et à la radio Capien.
On vous écoute, Serge.
Oui, moi aussi, je voudrais donner aussi mon apport par rapport à ces drogues-là. Mmh. Vous savez, chez nous au Congo, nous pouvons dire que les autorités ont refusé pendant que ces histoires reviennent. Je vous dis franchement, c'est de l'hypocrisie parce que si les autorités refusaient, franchement, ces histoires-là allaient déjà disparaître. Maintenant, ce que je voulais un peu proposer aux autorités, c'est quoi? Et comme ils ne refusent pas l'entrée de ces drogues-là dans notre pays parce qu'ils sont en train de favoriser à la perdition de notre société, que cette histoire-là coûte alors cher, parce que si ces histoires coûtaient cher, ces jeunes-là n'auront pas la possibilité de s'en acquérir. Aujourd'hui, les jeunes payent des becs pour 100 francs, becs pour 150 francs. Hein? Vous savez qu'avec ça...
Qu'est-ce que vous appelez bec? Oui? C'est une drogue qui est consommée là-bas, chez vous?
Non, les becs, c'est quoi? Les becs, c'est une quantité.
Oh, désolé, quelques soucis. Vous êtes encore là? Désolé, il n'est plus là. Il y a quelques soucis au niveau de la communication. Tamboué Kasselele, depuis Bénin, nous dit, aujourd'hui c'est un problème, les jeunes ne pensent plus à l'avenir, mais ils pensent qu'à la drogue et à l'alcool. À 6 heures du matin, vous allez voir un jeune, voir un papa qui est déjà ivre. Je me demande à cette heure-là, qu'est-ce que la personne va faire? Comment est-ce qu'elle va travailler? Conséquence, il y a la folie parmi les jeunes, la cirrhose de foie, les cancers, la mort prématurée, etc. Et pour lutter contre cette consommation des substances toxiques, il faut interdire l'entrée au niveau de nos douanes, de ces whisky, mais aussi interdire la production de ces bombés au niveau interne. Punir sévèrement les agents de l'ordre ainsi que les commerçants qui vont continuer à vendre ces substances, et punir aussi tout jeune qu'on trouvera ivre ou qui aurait consommé le bombé. Professeur Joachim, votre réaction par rapport à ce que cet internaute a dit.
Oui, moi je pense qu'il a bien raison, parce que il y a au moins, évidemment, comme Dr Mifondo a dit, il y a l'intervention pour essayer de lutter contre cela est à trois niveaux: médico-psychosocial. Mmh. Médico-psychosocial. L'intervention sur le plan médical, c'est ce que le prof Mifondo fait, c'est-à-dire que ce jeune arrive, il faudra un diagnostic médical, n'est-ce pas, pour déterminer le taux, pour essayer d'apprécier la nocivité, pour l'intoxication, pour voir à quel niveau le jeune a été intoxiqué et qu'est-ce qu'il faut faire.
Surtout qu'ils associent maintenant des produits de la pharmacie.
Beaucoup de produits pharmaceutiques. Il faudra bien que l'intervention au niveau médical vraiment puisse être solide. Voilà, c'est ce que Dr Mifundo fait. L'intervention au niveau psychosocial, très très important, parce que, vous savez, la prise de ces drogues-là se fait soit de manière isolée, mais de manière générale, c'est en communauté. Il y a toujours un réseau, n'est-ce pas? Il faudra bien qu'il y ait une action psychosociale. Psycho, c'est d'abord la personne qui prend cela. Une fois que le diagnostic a été posé, prenons sur le plan médical, il faudrait bien qu'il y ait une prise en charge individualisée autour de toutes les approches psychologiques qui peuvent faire qu'on puisse au fur et à mesure faire sortir la personne. Donc une psychothérapie, un entretien et tout, ça peut faire.
Parce qu'il semble que ces substances-là, dès qu'on silence, c'est fini, on ne sait plus s'en tirer.
Exactement, c'est-à-dire qu'il faudrait
bien... Ça crée une sorte de dépendance.
Évidemment, ça crée, parce que dans un premier temps, on commence par un usage simple, donc par la curiosité, il peut prendre une ou deux fois, mais ce qui est beaucoup plus grave, s'il tombe dans un usage nocif, hein, ce qu'on appelle l'abus, là ça devient déjà un problème, parce que il prend ça pour aller causer un acte, il prend ça pour aller faire quelque chose, et c'est comme ça que vous verrez beaucoup de jeunes qui prennent ça vont se rouer vers la violence. Et il y a même de jeunes, parce que il prend, il y a même de parents, il y a des parents qui prend, mais si la femme ne supporte pas, ça va occasionner quoi? Le divorce. Voilà, il y en a qui tombent dans ça. Et puis après, au niveau de la famille, ça va pas. D'autres même qui sont travailleurs, qui sont employés dans des entreprises, il va perdre son travail. il va perdre son travail. C'est pourquoi une prise en charge individualisée, mais aussi collective, tout en ciblant, n'est-ce pas, les réseaux, là, c'est au niveau de la prise en charge sociale, il faudra qu'on puisse bien identifier les groupes qui prennent ça. C'est comme monsieur dit, une prise en charge, pas seulement individualisée. Il faudra très bien faire, tout faire pour identifier d'abord les réseaux, parce qu'ils prennent ça en réseau. D'où vient cela? Ici à Kinshasa, je pense qu'il doit y avoir un réseau, ou des réseaux.
Ça, mais c'est beaucoup plus dans les quartiers
défavorisés. Il y a des réseaux.
Défavorisés.
Il faudrait bien que les jeunes qui vont en consultation puissent dénoncer ces réseaux-là.
Qu'on identifie ces réseaux-là,
oui.
Les consommateurs.
Qu'on puisse identifier ces réseaux des consommateurs.
Et des fournisseurs aussi.
Et les fournisseurs. Parce que si on ne fait pas ça maintenant, il y a deux niveaux également. Il faudra bien conseiller les gens, mais aussi punir. Vous savez, lorsqu'on ne punit pas, on ne pourra jamais, jamais faire cesser cela. Il faudrait bien qu'il y ait une action répressive, en communauté, en réseau. Les parents doivent être pris en charge. Les parents doivent dénoncer. Les parents doivent être accompagnés. C'est pourquoi je dis ici, la prise en charge est un peu structurelle, à plusieurs niveaux. L'école, l'université, les institutions qui s'occupent des enfants des rues.
La police
doit être équipée, doit être formée.
Doit démanteler ces réseaux.
Doit être formée, parce que si la police n'est pas formée, parce que l'organe de répression, c'est également la police. Si la police est bien renseignée, bien formée, est aussi équipée avec le matériel comme l'alcoolémie et tout ça, ça peut aller. Voilà. Donc, c'est un travail vraiment tout azimut qu'on doit faire afin qu'on puisse prétendre mettre fin à la pratique.
Docteur Abraham, est-ce que vous avez un centre de prise en charge des désintoxications? Dites-nous comment ça se passe. Comment vous faites pour traiter ces cas de jeunes qui sont, disons, dépendants de l'alcool et des drogues?
En fait, je voulais d'abord rebondir sur les questions de l'intervention de votre auditeur. En fait, il faudrait qu'on sache que les substances psychoactives vont continuer à exister et que les différentes modalités de consommation vont changer au fur du temps, en fonction des disponibilités et en fonction même de, parfois aussi de mesures répressives. Donc, ça existera. Alors, ce qu'il faudrait qu'on fasse d'abord, c'est bien connaître pourquoi ce phénomène existe aujourd'hui et pourquoi seulement ces substances aujourd'hui. Donc, il faudrait des recherches d'abord à la base pour qu'on comprenne très très bien ce phénomène de consommation de substances psychoactives pendant cette période-là, qui peuvent changer d'une période à une autre. Même la manière de les consommer peut changer, les substances consommées peuvent changer. Alors, et pour cela, il faudrait, après ces recherches, qu'on ait bien compris pourquoi ce phénomène et quelles sont les cibles les plus en vue, les cibles les consommateurs, les sujets consommateurs de ces substances-là. Parce que bien qu'on dise que c'est les jeunes aujourd'hui, mais ça pourra changer. Mais nous, ce qui sommes en clinique, nous recevons parfois les vieilles personnes. Par exemple, il y a 2-3 mois, en clinique, nous avons remarqué que c'était plus les femmes qui venaient pour les problèmes de consommation de boissons alcoolisées. Donc, il faudrait des analyses d'abord, qu'on comprenne. On ne doit pas, nous ne devons pas, surtout nous les chercheurs, nous ne devons pas proposer des solutions trop positives sans d'abord analyser. Donc la première étape, c'est analyser pour que nous comprenions. Parce que même cette consommation de... Pourquoi les gens consomment les substances psychoactives? C'est parce que ils trouvent cette consommation comme une stratégie, mais qui est inadaptée face aux problèmes qu'ils sont en train de connaître. Donc il faudrait une analyse. Alors, mais maintenant, par rapport aux interventions, les interventions doivent être pluridisciplinaires. Hein, c'est pas seulement le médecin qui devra intervenir, mais il faudrait qu'il y ait, surtout au niveau national, qu'il y ait la loi qui puisse être renforcée, qu'il y ait l'intervention de la police qui devra réprimer par rapport à la loi, qu'il y ait ceux qui doivent le prendre en charge au niveau de problèmes de santé, même de problèmes sociaux. Hein, c'est pas quelque chose seulement qui est destiné aux médecins.
Donc c'est une prise en charge pluridisciplinaire.
Pluridisciplinaire. Et aussi, la lutte ne devra pas être centrée sur une seule substance. Ce n'est pas parce qu'il y a le Bombay aujourd'hui qu'on ne se concentre que sur le Bombay. Donc il y a des actions immédiates qui devront être orientées vers la lutte contre le Bombay. Mais aussi, il y a des actions à moins et à long terme qui devront être orientées vers la consommation de substances psychoactives de manière générale, et même des addictions de manière générale. Mmh. Et au niveau de l'individu, hein, quand au niveau de l'individu, ce qui se passe quoi, et il faut se dire quand même que quand la personne est déjà à l'étape de la dépendance, c'est assez rare que la personne vienne derrière. C'est souvent à l'occasion d'un certain petit délit, d'un volet qu'il a fait, qu'il dérange, ou d'un trouble psychiatrique qu'on nous l'amène. Alors la première étape, c'est que nous cherchons d'abord à comprendre la personne et sa consommation et son environnement. Parce que nous ne pouvons pas seulement intervenir sur la personne sans tenir compte de son environnement. Et dès que nous avons compris la personne, et que dès que nous avons compris son environnement, et dès que nous avons compris sa consommation, eh bien, nous mettons sur pied un projet de prise en charge, qui peut parfois faire intervenir des gens qui ne travaillent pas avec nous. Bon, par exemple, au CNPP où je suis le chef de service AI, du service de psychiatrie organique et addiction, eh bien, nous avons une équipe qui est composée de médecins, qui est composé de psychologues, des assistants sociaux, des ergothérapeutes et des infirmiers. Donc tout le monde intervient, tout le monde apporte, tout le monde fait une analyse à ce niveau, l'infirmier observe, il apporte ses informations, oui. Et on se réunit au cours d'une réunion, on fait la synthèse, chacun, on a tous les problèmes, nous avons tous les problèmes qui sont autour de la personne, de sa consommation et de son environnement. Nous définissons le projet de prise en charge qui peut avoir un volet médical, ça dépend maintenant de la substance psychoactive. Quelqu'un qui prend par exemple l'héroïne, qui a un manque, hein, et là nous pouvons prescrire des médicaments que nous connaissons très bien.
Professeur, est-ce que certains disent que la plupart des consommateurs de ces substances proviennent de, vous avez parlé de l'environnement, c'est souvent un environnement pauvre où ils sortent des milieux défavorisés.
Ah, c'est au-delà de cela, mon cher. En fait, il n'y a pas un facteur isolé. Généralement, c'est un faisceau de facteurs qui se conjugue, qui se regroupe, qui interagisse pour que la personne puisse arriver à sa consommation de substances psychotiques. Par exemple, du point de vue personnel, il y a ces consommateurs-là, on se rend compte que ce sont des personnes qui sont à la recherche de grandes sensations, des personnes qui ne savent pas supporter les frustrations. Et quand on analyse un peu leur vie, on se rend compte que ce sont des gens qui ont connu beaucoup d'échecs, l'échec scolaire, l'échec professionnel. Et quand on va dans sa société, particulièrement sa famille, on se rend compte que c'est quelqu'un finalement qui a vécu dans un environnement familial où surtout les relations n'ont pas été très très bonnes. Et quand on va par exemple chercher dans son enfance bien profonde, on se rend compte que parfois le style d'éducation n'ont pas reçu
une bonne éducation, oui.
Bon, une éducation, peut-être c'est trop dire, mais ce qui est vrai, c'est que le contrôle parental, généralement parental, n'a pas été à la hauteur. Mmh. Ou parfois même, les besoins sociaux n'ont pas été suffisamment satisfaits. Le polygame, qui a plusieurs femmes, il ne sait pas en même temps être présent pour donner de l'affection. Et il est polygame à plusieurs femmes, plusieurs enfants, il n'est pas capable de faire face
de s'occuper de ses enfants.
Tous ses besoins. Donc, c'est tout un... C'est plusieurs facteurs qui interagissent et qui font finalement une vulnérabilité qui
les expose à ces substances-là.
Voilà.
Bien, merci. En fait, je reviens à vous, professeur Joachim Mukawebwe. Auditeur nous écrit depuis... merci à tous les internautes, il y a beaucoup de réactions sur la page Facebook de l'émission. Depuis Bukavu, Delphin Ntabarusha nous dit ceci, il faut créer des emplois pour les jeunes, car une jeunesse sans emploi va se livrer toujours à l'alcoolisme et à toute forme de banditisme. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Delphin, professeur Joachim?
Ben oui, c'est comme nous l'avions dit, hein. Donc qu'est-ce qui est à la base du fait que les jeunes puissent aller se rouer à l'usage de drogue? Le manque d'occupation également peut aussi expliquer, mais évidemment, il n'y a pas seulement le manque d'occupation. Il faudrait bien que les gens soient informés de la gravité de pouvoir recourir, n'est-ce pas? Alors, parce que on peut voir dans la population de ceux qui prennent, qui consomment la drogue, il n'y a pas seulement nécessairement, le docteur Mifundo vient bien de le dire, il n'y a pas nécessairement ceux qui ne travaillent pas ou ceux qui ne font rien. On s'est recruté dans la population ceux qui font quelque chose. Ça dépend. Ça dépend du pourquoi la personne est en train de recourir, de se droguer. Ça peut être la recherche de la satisfaction.
Des sensations.
Oui, des sensations. Ça peut être également le fait que quelqu'un aimerait oublier certains événements. Ça peut aussi être l'idée de pouvoir supprimer sa vie. Voilà, parce qu'il y a telle chose.
Telle déception
et tout. Donc, il y a plusieurs raisons, mais également le fait de créer l'emploi, le fait de pouvoir occuper les gens, c'est également parmi les facteurs. L'usage du drogue n'est pas un phénomène congolais, n'est pas essentiellement...
Ça n'a pas commencé aujourd'hui.
Oui. Et donc, lorsque vous allez dans beaucoup de pays, il y a des associations qui luttent contre l'intoxication. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de réseaux. Donc ici, le problème, c'est de bien canaliser ça, de bien gérer ça, de bien se constituer en réseau de luttes afin d'éviter l'amplification, n'est-ce pas, du phénomène.
Théodore nous a écrit depuis Lubumbashi, il dit, pour moi, il faut que le gouvernement prenne les choses en main en fermant toutes ces usines qui fabriquent ces drogues-là ou ces liqueurs, professeur Mukau.
Oui, mais fermé, c'est-à-dire que, bon, en fait, ils ont bien dit, vous savez bien que dans ce pays, tout existe comme loi, dans ce pays. Il n'y a rien qu'on peut encore recréer aujourd'hui. Toutes les lois existent, même des institutions de contrôle existent dans ce pays. Nous avons l'OCC qui est là, qui a comme mission également de contrôler tout ce que nous consommons. Voyez. Donc nous avons la loi dans ce pays, tout est là. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est de réactiver les animateurs, de conscientiser les animateurs. Le public doit être informé, doit encore être une fois sensibilisé. La loi existe.
Alexis nous a écrit, il dit, il est difficile d'endiguer ces phénomènes parce que ceux qui sont censés contrôler, les militaires et les policiers eux-mêmes, se retrouvent parmi les consommateurs.
Mais voilà, c'est comme ça que je dis, la loi existe, il est question qu'on puisse éduquer les personnes. C'est un problème d'individu. Les textes sont là, les textes sont clairs. Dans ce pays, on parle bien de la consommation des substances licites et illicites. On sait qu'est-ce qui est licite, qu'est-ce qui est autorisé à être consommé, toléré à être consommé, et qu'est-ce qui n'est pas toléré à être consommé. Mais qu'est-ce qui fait que parmi ce qui est illicite, prohibé, qu'on puisse voir ça sur le marché, et puis tout le monde est calme. Tout le monde est calme, mais pourtant la loi est là. La loi est claire. Le ministère de la Santé sait très très bien qu'il y a des substances qui sont illicites, qu'on ne peut pas consommer. Donc il faudra bien qu'on puisse comprendre comment encadrer la population. Parce qu'aujourd'hui on parle des jeunes, il n'y a pas seulement des jeunes. Les jeunes ont vu ça quelque part. Les jeunes ne vont pas entre eux. Il y a des adultes dedans. En tout cas, toutes les catégories sociales, d'après moi, se retrouvent dans cette population
qui consomme les substances
D'une manière ou d'une autre, que ça soit une consommation simple ou bien Il y en a même qui sont en train de consommer ce qu'on appelle l'abus, n'est-ce pas, l'abus qui pose des actes. Vous croirez que
certains disent même que certaines autorités aussi en prennent.
Ben comment le savoir, comment il faudrait bien contrôler. C'est pourquoi pour moi je pense que la répression est également donc les recherches, comme dit le prof Mifundu, maintenant il faudra bien qu'on puisse envisager comment essayer vraiment d'identifier ces gens-là dans la population. Moi je vois ça ailleurs, dans certains pays. Évidemment, tu es en train de conduire, on te dit arrête-toi un peu et tu vas essayer de souffler pour qu'on voit quel est
si tu as consommé ou pas.
Bon, voilà. Mais chez nous, tout le monde, on se réveille le matin, je vois combien d'accidents il y a avec les...
Même la manière dangereuse de rouler...
De rouler, c'est terrible. Donc moi, je
sous
pense
les effets il faudrait bien
qu'on puisse contrôler. Il faudrait bien que les gens soient contrôlés, qu'il y ait un mécanisme de contrôle.
Oui. Professeur, docteur Mifundu, faut-il fermer ces entreprises-là? Faut-il commencer à arrêter les vendeurs? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement?
En fait, les propositions sont à plusieurs niveaux. Je disais que c'est pas n'importe qui... C'est pas tout le monde qui arrive à la consommation qui aboutit à la dépendance, à l'addiction. Donc ça, c'est un principe, il faut qu'on le connaisse, il faut que ça soit clair. C'est pas tout le monde qui consomme une substance à un moment donné qui deviendra dépendant à cette substance et qui présenterait des problèmes. Donc donc il y a plusieurs consommateurs, mais très peu présentent souvent des problèmes. Deuxièmement, c'est qu'il faudrait connaître que nous allons et que ces substances à consommer vont varier, vont changer d'une époque à une autre. Et ça, c'est un élément aussi à bien comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, par rapport à ce qu'ils produisent, si le consommateur est bien préparé, qu'il sait faire face à ces situations difficiles qu'il amène à la consommation des substances psychoactives. Même présente, il ne va pas la consommer. Hein. Ou si bien même quand il consommait une boisson alcoolisée, il peut la consommer avec modération. Mais d'ailleurs, il y a une étude que nous avons faite qui est bien sortie. Eh bien, avant la consommation du chanvre, les consommateurs du chanvre étaient sélectionnés dans nos cultures. Il y avait des critères bien précis de ceux qui devaient continuer à consommer le chanvre. Et ceux qui ne répondaient pas aux critères de continuer de consommation, quand ils consommaient, c'est eux qui présentaient des troubles, soit des troubles d'ordre social, soit des troubles de maladie. Donc, le gouvernement a déjà proposé assez régulièrement des outils légaux.
Mais professeur, il y a aussi ce qu'on appelle la chicha. Vous allez dans les boîtes de nuit, dans les espaces récréatifs, vous trouvez 3-4 jeunes en train de prendre la chicha. C'est aussi une sorte de drogue.
Oui, je vais peut-être continuer dans mon idée. Oui. C'est que beaucoup d'outils législatifs existent. Mais ce qui manque, c'est les actualiser et les rendre conformes à la réalité aujourd'hui. Et déjà, ces outils-là permettent de contenir le producteur et le consommateur, lui. Le consommateur ne doit pas être considéré comme un criminel, comme un bandit, comme un délinquant. Mais c'est une personne qui a un problème qu'il faudrait bien comprendre. Et la consommation de substances psychoactives n'est qu'un mécanisme d'adaptation. Hein? Donc ce sont des personnes qui nécessitent d'être écoutées, d'être entendues, d'être aidées, d'être accompagnées. Hein? Et d'ailleurs, ce sont des personnes qu'on ne devait pas amener en prison, à moins qu'il y ait d'actes assez dangereux. Sinon, ce sont des personnes qui doivent aller vers...
les centres de désintoxication.
Oui, des thérapeutes pour être aidés. Et pour revenir à la question de l'auditeur...
Un instant, il y a plusieurs autres auditeurs, nous allons les prendre rapidement, et vous allez répondre au même moment. Jacques, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Jacques Delumbashi, bonjour.
Oui, en tout cas, d'entrée de jeu, je voulais d'abord condamner la complicité de l'État congolais dans cette affaire.
Là, c'est Charles Delumbashi. Allez-y, Charles.
Oui, je voulais d'abord condamner la complicité de l'État congolais dans cette affaire, hein, qui, à mon avis, manque le cœur à l'ouvrage. Vraiment, il existe des lois et des lois dans ces pays. Mais malheureusement, il n'y a jamais eu de mesures contraignantes. Dernièrement, vous allez vous rappeler ici à Lubumbashi, concernant le port de Kasné, par exemple, quand le maire de la ville a pris ce mesure-là concernant l'incarcération de personnes arrêtées pendant une semaine, et dit que l'amende dépassait 15 000 francs. Mais il y a une obéissance totale. Alors si chaque maire, si chaque chef de quartier faisait la même chose, je pense qu'il y a la même possibilité.
Bien, merci Charles Delumbashi. Benjamin, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour monsieur, je suis Daniel Kassama, bonjour à l'invité, bonjour à tous les invités de la radio Paris.
On vous écoute.
Merci beaucoup, et d'entrée de jeu, je voulais d'abord vous dire que nous avons un problème de signal de radio au Kapi. Parfois nous vous captons sur le canal Plus, vraiment c'est un problème sérieux que nous avons ici. Concernant les sujets, je pense que la consommation de cette boisson-là, comme vous l'avez mentionné sur Facebook, présente plusieurs risques, monsieur, je dis. Et l'invité venait même de dire qu'il y a des troubles sociaux. Donc, il y a beaucoup d'inconvénients que présente la consommation de cette boisson.
Mais il n'y a non, pas il s'agit d'une drogue bombée. Bon, on parle dans l'ensemble des liqueurs et des drogues dans l'ensemble, oui.
Ah, voilà, merci beaucoup. Il n'y a pas que ça, monsieur, je dis. Si vous voyez, par exemple, ici au Casa Central, là, il y a beaucoup de drogues. Les jeunes aujourd'hui ne se donnent qu'à la drogue, monsieur, je dis. Moi, je pense que l'État que nous avons ne devrait pas se présenter dans une position de faiblesse. Il fallait qu'il puisse prendre des mesures contraignantes pour contrecarrer toutes ces pratiques-là qui ruinent peut-être la société de demain. Je pense qu'on devrait diligenter les enquêtes et commencer par fermer le bar, les discothèques, les boîtes de nuit. Donc, tous les liens-là dangereux dont on retrouve les jeunes en groupe en train de se droguer, monsieur, je dis. Sinon, si l'État n'ouvre pas laisser ces problèmes, monsieur, je dis, on est en train de freiner le mouvement de la République démocratique du Congo éternel. Et aussi, je pense que les ministères de la jeunesse que nous avons devraient s'y mêler, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont planifiés pour aider les jeunes à émerger afin que les potentialités puissent aider dans le développement de la société de demain. Donc, on doit concrétiser toutes ces mesures-là. Je pense qu'en les faisant, on aura peut-être une jeunesse responsable de demain qui pourra faire en sorte que la communauté puisse se développer.
Voilà. Merci. Merci beaucoup. Docteur Mifundu, on va conclure en quelques secondes. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour résoudre ce problème?
En quelques secondes, nous assistons aujourd'hui à un changement assez permanent. On passe d'une drogue à une autre drogue. Beaucoup de drogues naturelles qui sont produites dans notre pays sont consommées par les jeunes. Et ce qui est dangereux est que c'est la jeunesse, le devenir de notre pays qui en est victime. Et ce qui est vrai, qu'il y a un arsenal juridique qui est déjà mis sur, qui est disponible. C'est question de mettre déjà en œuvre, d'appliquer ce qui existe et d'améliorer ce qui n'existe pas. Et que la prise en charge devra être multidisciplinaire et devra intéresser beaucoup de gens. L'État a son devoir, c'est lui de donner les lois, et mettre à la disposition des intervenants qui peuvent aider les consommateurs, et que les consommateurs ne devaient pas être considérés comme des délinquants, mais aussi qu'il faudrait qu'on comprenne qu'il y ait des études finalement, qui comprennent très bien le phénomène, parce que c'est un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial.
D'accord. C'est un phénomène mondial. Merci beaucoup, Dr Mifundu Abraham. Je rappelle que vous êtes neuropsychiatre et expert dans la lutte contre les drogues et les crimes à RDC. Excellente journée. On va conclure également avec vous, professeur Joachim Mukawe-Bouel, psychopathologue.
Oui, merci beaucoup. Moi, je pense que ce qu'on doit faire, il faudrait bien que nous puissions avoir... mettre sur pied des mesures répressives, bien sûr, répressives, la répression, vis-à-vis des consommateurs. Ça, c'est très, très important parce que on peut mener une action, mais lorsqu'il n'y a pas punition, je connais bien, on se connaît bien en tant que Congolais. Nous savons
c'est
bien
la sensibilisation
comment
aussi.
nous formons et nous fonctionnons plutôt. Donc, il faudra bien qu'on sensibilise les gens, mais il faudra aussi qu'on puisse arriver à mettre sur pied certaines mesures de répression des consommateurs, même, mais également des vendeurs.
Mais est-ce qu'on a dans des centres de prise en charge des désintoxications, par exemple, pour ceux-là qui n'arrivent plus à arrêter, il faut les aider.
À mon avis, le centre que je connais qui prend en charge, c'est le centre du docteur du prof Mifoudou. Mifoudou que je connais.
Mais le centre national, ça n'existe pas.
Donc ça c'est pas encore. Mais en tout cas, c'est que moi je pense qu'il faudrait bien qu'on arrive à considérer ça comme étant une préoccupation au niveau de la santé publique. Ça, c'est très, très important.
Bien, merci, professeur Joachim Moukouaou-Ebouel. Je rappelle que vous êtes psychopathologue.
Oui.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Qui est comme à la crête, tout détonné, tout me plaît, les mains sont livides, vides, vides, mains sont livides, vides, vides. Seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche, le lion ne sourit qu'à moitié, âme solitude immense, ton visage ne sera jamais senti, comme tu regardes dehors, j'emporte un portrait dévoré, tout le destin bord à bord. Kiss my station. Kiss my station. And if you say you just wanna stay with you, kiss my station. Kiss my station. Comme certitude collée à trois fils, 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 liée à trois fils, fils, fils. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, pire, que tu respires, pire, pire. Partenaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée de beurre d'immense. Cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace, il faudrait que tu la portes loin. Alors que d'autres renoncent, je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Kiss my station. Kiss my station.
Et oui, fidèles auditeurs, c'est par ici que s'achève cette émission au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Tati Mapuku a assuré la coordination et la réalisation. Polydor Bansunga était à la mise en onde. Au micro, aujourd'hui, Daniel Kachama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.